Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Je veux montrer à travers ce texte que nous ne sommes pas toutes égales sur le marché de l'amour et que, bien que la volonté de déconstruction de l'amour se veuille universelle, la critique des normes amoureuses se doit d'être plus profonde et plus diverse. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Christelle Murula à l'occasion de la parution de son ouvrage « Amour silencier, repenser la révolution romantique depuis les marges » aux éditions Daronne. C'est parti. Bonsoir Christelle. Si donc je te reçois ce soir, c'est pour qu'on continue de parler de cette révolution romantique. Mais, y a-t-il vraiment une révolution romantique? Je pense qu'on peut directement entrer dans le cœur du sujet.
Ouais, c'est très direct.
Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a eu une vraie révolution romantique cette année qui est passée? Est-ce que pour toi, ça a été révolutionnaire, la façon dont on t'a parlé d'amour?
Non. Le concept de révolution romantique, donc, il a été initié par une journaliste qui s'appelle Costanza Spina pour le journal Manifesto 21, où justement, elle racontait dedans que la révolution romantique, ça devait être quelque chose qui pourrait nous aider à pallier au fascisme. Et ensuite, elle a réécrit un autre texte qui disait très clairement, chère féministe blanche, laissez la révolution romantique aux femmes racisées et aux femmes queer, quoi. Et donc ensuite, bah, je pense que son texte, il a assez tourné, et finalement, le terme de révolution romantique est devenu une espèce de fourre-tout, où, en fait, grâce à ça, on pourrait se poser des questions sur notre rapport à l'amour, notre place au sein de nos couples hétéros, très souvent, voilà, tout ça, quoi. Tout ça. Et est-ce que c'est une révolution? Je ne sais pas. Non, je pense pas. C'est pas une révolution du tout, parce que c'est quand même une question qui reste prise en main par des femmes. Vraiment prise en main par des femmes hétéros, en tout cas de manière très mainstream. Et très honnêtement, pour qu'il y ait une révolution, je pense qu'il faudrait que tout le monde s'y mette, en fait. Et on n'a pas forcément tout le temps besoin des hommes dans nos vies, très clairement pas. Mais en tout cas, pour les femmes hétéros, s'il doit y avoir une révolution romantique, eh ben, il faudrait peut-être que les hommes aussi se consacrent à ne serait-ce que réfléchir à tout ce qu'il y a, à lire toutes les productions qu'il y a, même si j'en critique certaines dans mon livre. Mais en fait, il y a des choses qui existent, il y a des ressources. Et on ne va pas tout le temps, nous, aller au charbon pour les écrire, pour créer des podcasts, ou alors pour les éduquer aussi dans le privé. On fait beaucoup de choses déjà dans une journée, donc ouais, pour qu'il y ait une vraie révolution romantique, il faudrait vraiment que tout le monde s'y mette, quoi, et que tout le monde se remette en question, et ensuite peut-être qu'on pourra parler de révolution ensuite.
Après, c'est vrai que l'idée de base, elle était assez attrayante. Oui, ça fait un peu plus d'un an, on va dire un an et demi, on a commencé à avoir arrivé pas mal d'essais. D'abord, en fait, sur l'amour, de se dire, ah ben voilà, et c'est, tu le dis dans ton livre, on s'est occupé des corps, maintenant on s'occupe de l'amour, deuxième phase. Et donc, on a lu beaucoup de choses, on a compris qu'il y avait un endroit aussi de travail à faire. Peut-être que c'était pas si évident que ça, de remettre en question, en fait, le sentiment amoureux. Sentiment, je ne suis pas sûre, en vrai, parce que quand on parle d'amour, on parle surtout de couple. Pendant cette année, ça a beaucoup été... Ouais. Ça, en fait, se dire, bon, bah, comment on est ensemble, comment on est à deux, comment on est, alors, ou en hétérosexualité, ou en lesbianisme politique, parce qu'il y a eu aussi ça, comment, en tout cas, on sort de l'hétérosexualité comme régime politique. Mais au fur et à mesure du temps et de l'année qui est passée, moi, ce qui m'a déçue, c'est que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une production littéraire autour d'une autre façon d'aimer. de se dire, bah ok, en fait, on a compris que nos imaginaires étaient complètement pourris, ça marche pas du tout, et ben on va proposer autre chose. Bon, beaucoup diraient que je suis très impatiente, donc il faut laisser du temps à la création littéraire, ok. Mais pour autant, on est un petit peu resté dans un entre-deux où les oreilles et les yeux ont été ouverts. On se dit, ok, il doit se passer quelque chose, mais quoi ? Avant d'arriver vers ces futurs désirables, ton livre ici, Repenser la révolution romantique depuis les marges, il vient bousculer d'une autre manière. C'est de dire, vous êtes choux, vous les féministes. Bon, évidemment, tu le dis pas comme ça, c'est moi qui me permets. Vous êtes là à reprendre des idées qui ont déjà infusé dans d'autres écrits, d'autres temps, par d'autres autrices, et vous voulez réapproprier, comme c'est quand même beaucoup la petite tendance des Blancs, hein, n'est-ce pas ? Et vous oubliez, en fait, toute une partie de la population qui ne se sent de ce fait pas du tout concernée, en fait, par vos livres. On sent quand même à la lecture qu'il y a quelque chose d'assez virulent, si tu me le permets. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a un vrai agacement de ta part d'avoir lu tout ce que tu as lu et de constater que tu n'étais pas prise en compte dans tous ces livres. Est-ce que tu peux nous raconter de ce fait la naissance de ce livre et si, comme j'en ai l'impression, il y a quelque chose de... Non mais moi, je vais prendre la plume et je vais vous remettre les points sur les i.
Ouais. Bah, en fait, l'histoire de ce livre, elle est assez longue. Elle est même très très longue. Moi, j'ai eu l'idée de le faire, mais pas sous cette forme-là. C'était pendant le confinement. Donc le tout premier confinement, le gros confinement. Et à la base, moi, je voulais juste, enfin juste, entre gros guillemets, écrire un livre sur le statut de la femme célibataire, en fait. Sur le célibat choisi, etc. Et sur comment est-ce que... On peut peut-être voir qu'il y a une espèce de propagande au couple hétérosexuel monogame dans la société. Et moi, je voulais vraiment juste analyser ça, quoi, à la base. Donc, en soi, ce qui n'est pas forcément très différent de ce qui a pu sortir après. Et puis, donc on est parti sur ça avec mes éditrices. Et puis, un an est passé et je savais pas trop quoi écrire. Je savais pas trop quoi écrire. Et donc, on arrive en septembre 2021 et c'est là qu'il y a eu beaucoup de productions autour de l'amour, justement. Donc, il y a eu Réinventer l'amour de Mona Chollet, il y a eu Cœur sur la table de Victoire Tuillon, il y a eu plein d'autres podcasts, plein d'autres livres. Et donc là, je me suis dit, ah bon, c'est peut-être ce que j'avais envie de faire, donc qu'est-ce que moi je vais apporter de plus en fait dans toutes ces productions. Et donc forcément, bah, je me suis penchée là-dessus, j'ai lu, j'ai écouté, etc. Et là, je me suis dit, mais à qui vous parlez en fait, parce que je me sentais pas concernée et j'avais l'impression qu'on ne s'adressait pas du tout à moi. Et donc j'étais énervée, ouais. j'étais un peu énervée parce que je me suis dit, en fait, il y a quand même un énorme panel de choses là qui sortent, mais je me reconnais dans aucune d'entre elles et j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas du tout eu la même vie, qu'on n'a pas du tout les mêmes problèmes amoureux. Et donc ouais, j'étais assez énervée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai même pas eu à dire quoi que ce soit à mes éditrices. Il y a l'une d'elles qui m'a appelée et qui m'a dit « Tu serais pas un peu énervée, justement ?» et c'est là qu'on s'est dit « Bon, bah, on va peut-être partir sur autre chose et en fait, peut-être parler de celles dont on ne parle pas et décortiquer aussi ce qui a pu se passer là ces derniers mois concernant les productions autour de l'amour. » Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est lancé là-dessus, quoi. Mais c'était en septembre-octobre 2021 qu'on a vraiment décidé de faire ce livre-là.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, voilà, on est un an et demi après, presque. En fait, en France, il n'y a pas eu d'autres sorties de personnes qui représenteraient ces marges dont tu parles et qu'on va définir après. Mais en tout cas, que tu aies aussi toute cette réflexion-là et de te dire, non, mais il faut faire quelque chose, en fait. Il faut qu'on vienne proposer, en fait, une contre-attaque, on va dire, à tout ça, ou en tout cas une continuité aussi. C'est génial. Déjà. Mais en même temps, moi, en tant que lectrice blanche, libraire blanche, j'ai été hyper mal à l'aise avec moi-même. Parce que je ne suis pas concernée directement par ces marges, en fait. Je ne suis pas une personne à la marge. De se dire qu'on a loupé quelque chose et que ça vient continuer, en fait, quelque chose de pas OK dans notre mouvement féministe, qui est de constamment oublier, en fait, les marges. Ouais. Tu prends le point de vue des femmes noires, mais aussi des femmes pauvres, des femmes non valides. Et là, tout de suite, en fait, on se dit, mais c'est pas parce qu'on n'a pas, nous, en fait, ces problématiques-là, qu'on ne doit pas y réfléchir et les inclure. Ici, donc avec Amour silencieux, certes, tu donnes un coup de pied dans ce qui s'est passé, mais tu vas aussi rétablir en fait, la place des femmes à la marge dans cette révolution romantique. Et en commençant par ce que tu connais, c'est-à-dire tu es une femme noire, tu vas parler de ce que c'est qu'aimer quand on est une femme noire. Et donc là, on va vraiment en fait, rentrer dans la thématique sous cet angle-là. Ça a dû être assez perturbant aussi pour toi que de te questionner en tant que femme noire dans cette position d'aimante, d'amoureuse ou pas, parce qu'on se rend compte en fait que aimer pour une femme noire, ça n'a pas les mêmes significations de par en fait toute la force raciste en fait qu'il y a sur nos territoires. Donc cette démarche d'y aller, de te mettre vraiment au cœur de ton livre, ça a dû être assez perturbant.
Ouais, ouais, c'était hyper perturbant parce que en plus, donc moi j'ai une, enfin je suis journaliste et j'ai une formation de journaliste quoi. Et on nous apprend vraiment à prendre le plus de distance possible quand on écrit quelque chose, c'est-à-dire à gommer vraiment qui l'on est et gommer notre personnalité quand on écrit sur quelque chose parce qu'un journaliste est censé être neutre, etc. Ce qui est faux, mais ça, c'est un autre débat. Et en fait, c'était assez compliqué de parler de ça. Parce que, certes, je donne pratiquement aucune anecdote personnelle dans ce livre-là parce que j'estime que j'ai pas à raconter ma vie. Mais, mine de rien, ne serait-ce que cette partie parle énormément de moi, en fait. De par ce que je raconte, de par ce que j'analyse aussi dedans, partout, en fait. Que ce soit... Enfin, quand je prends comme exemple... des séries ou des films, etc., quand je cite certains articles, certaines études, en fait, ça parle de moi vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ça a été hyper compliqué aussi de prendre une distance, mais tout en comprenant totalement ce qu'il en était. Parce que j'étais à la fois dans une position d'observatrice, mais observatrice qui a complètement vécu tout ça et qui, en fait, est témoin direct de tout ça, donc c'était très perturbant et j'ai mis un temps fou à l'écrire cette partie aussi parce que c'est dur en fait. Enfin, je me rends compte maintenant que j'ai des retours. Il y a pas mal de femmes noires qui m'ont dit qu'elles avaient pleuré en lisant. C'était se prendre un truc vraiment dans la tête et conscientiser certains trucs et ouais, j'avoue que cette partie est dure. Maintenant, je me rends compte que cette partie est dure. Alors que j'en avais pas forcément conscience en écrivant, je me disais juste ah bah c'est le quotidien et c'est tout quoi. Alors que non, maintenant je me rends compte que c'est très dur en fait et que c'est pas pour rien que j'ai mis autant de temps à l'écrire cette partie-là.
C'est d'autant plus dur que en fait tu parles d'un système d'oppression en fait envers les femmes noires et qui sur le fameux marché de l'amour, retrouvent en fait beaucoup de choses qu'elles vivent déjà au quotidien, que ce soit au travail ou dans des situations malheureusement les plus quotidiennes possibles. Ouais. Et là, en fait, tu vas décrire la femme noire dans son contexte amoureux et donc de parler d'abord de sa non-désirabilité d'un point de vue amoureux.
Ouais.
Parce qu'en fait, après, on doit faire la différenciation avec son corps qui est fort désiré. Et donc, cette différence-là, moi, il m'a fallu un tout petit temps pour capter. Ce que tu nous dis, c'est que la femme noire n'est pas souhaitée amoureusement, mais elle est par le côté fétiche, en fait, qu'on peut retrouver exotique. Elle va plutôt être désirée pour ce qu'elle représente physiquement. Est-ce que tu peux développer ces différences-là ?
En fait, il y a une pièce et sur une facette, donc les femmes noires, elles sont complètement, repoussées et considérées comme repoussantes, en fait, parce que déjà, je pense que dans la tête des gens, femme noire égale classe populaire. Donc, on n'a pas forcément envie d'être avec une personne qui est forcément issue de classe populaire, qui en plus de ça est vraiment pas du tout valorisée dans la société, que ce soit son corps qui n'est pas valorisé, la beauté, ou même la féminité, parce qu'on n'est pas censé représenter une féminité classique, douce, discrète, etc. Et d'un autre côté, y a toute cette fétichisation, c'est-à-dire que ça, c'est un héritage vraiment de l'Empire colonial, etc., où il y avait beaucoup d'expérience, et je mets des guillemets, scientifique sur le corps des femmes noires, et où, en fait, on s'imagine que le corps des femmes noires, comme il est très représenté comme étant avec grosses fesses, gros seins, hanches très très marquées, etc., et ben c'est un fantasme, en fait. Le fantasme d'un corps qui serait censé être parfait, mais pas avec la bonne couleur, avec les bonnes formes, mais pas avec la bonne couleur. Et donc, forcément, c'est un objet de fantasme, mais l'objet de fantasme considéré comme le plus crasse et le plus vulgaire, en fait. C'est-à-dire que on a honte aussi, parfois, de vouloir désirer une femme noire, de désirer une femme noire. C'est la honte, parce que c'est le vulgaire, c'est de la vulgarité. Parce que quand on s'imagine des fantasmes sexuels via les femmes noires, bah, c'est des fantasmes qui sont, comment dire, qui sont censés pas être très recommandables, quoi, des fantasmes inavouables. On s'imagine qu'on pourra tout faire avec, avec elle sexuellement. Mais du coup, ce qui fait que, bah, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue purement romantique, ce n'est pas une... Enfin, les femmes noires ne sont pas du tout désirées, en fait, parce que ce ne sont pas des femmes, déjà. Ce ne sont pas des femmes normales. On se représente pas une femme noire quand on dit... Enfin, quand on parle d'une femme, en fait. Donc le genre des femmes noires, il est quand même assez particulier, ouais, parce qu'on n'est pas des femmes, mais aussi parce que on n'a pas d'humanité non plus, quoi. C'est vraiment, on est vraiment des passagers, j'ai l'impression, sur cette terre où, où on est juste là, quoi. On est juste là, on n'est pas des femmes, on est noires, certes, mais quand il faut s'indigner, ben on s'indigne en grande majorité d'abord pour les hommes noirs. Voilà, par exemple, les violences policières, etc. Bah, c'est pour les hommes noirs qu'on marche, qu'on manifeste, etc. Voilà, il y a une phrase que j'ai écrite dedans, c'est une phrase de Gloria Hull. Toutes les femmes sont des blanches et tous les hommes sont noirs. Toutes les femmes sont blanches, pourquoi ? Parce que la féminité, bah, c'est la femme blanche. Quand il s'agit d'évoquer le féminisme ou même tout ce qui est attrait au genre, on se représente d'un point de vue très universel, une femme blanche plutôt mince, valide, de classe moyenne ou classe moyenne supérieure. Alors que dès qu'il s'agit d'évoquer les problématiques des personnes noires, bon, on s'imagine les hommes noirs, le racisme envers les hommes noirs, etc., les violences policières, le contrôle aux faciès, mais pour que les femmes noires soient entendues et défendues, que ce soit dans le milieu féministe comme dans le milieu antiraciste, en fait, il faut toujours que ça vienne de nous-mêmes. Et il faut toujours que ça vienne de nous-mêmes, il faut toujours qu'on soit là pour taper du poing et pour dire « et on existe, quoi ». Et c'est pareil, en fait, dans le marché de l'amour, c'est-à-dire qu'il faut... Il y a des stratégies, il faut réfléchir. D'abord, est-ce que cette personne-là... est-ce qu'il sort avec des Noirs ? Est-ce que les Noirs lui plaisent ? Etc. C'est constant, on peut pas y échapper, et encore moins dans l'amour, on peut vraiment pas y échapper, quoi.
Oui, c'est une conscience supplémentaire, en fait, qui est complètement liée à son existence. Tu prends l'exemple de OkCupid, oui, dans ton livre, qui considère en effet la femme noire comme la dernière catégorie désirable, je crois.
Ouais, en fait, c'est une étude qu'ils avaient faite en 2014, je crois. Où, en gros, forcément, aux États-Unis, bah, y a des statistiques ethniques, donc ils ont le droit de faire ça. Et ils avaient vu que c'était les femmes noires qui étaient les moins swipées, en fait, sur l'application. Et côté hommes, bah, c'était les hommes asiatiques. Et juste, bah, ouais, ça m'étonne pas, quoi. Ça m'étonne absolument pas, parce que j'ai l'impression que les gens se disent qu'il faut réfléchir à deux fois avant de nous regarder d'une manière romantique, avant de se dire « est-ce qu'elle me plaît ?» Est-ce qu'elle me plaît pas ? Ouais, en fait, elle me plaît vraiment. Peut-être que j'y vais, mais ouais, mais d'un autre côté, c'est pas très valorisant d'être vu avec une femme noire. Donc, ouais, ça m'a pas étonnée, cette étude-là.
Ouais, ouais, y a tout un bagage, en fait, de stéréotypes et de discrimination qui continue, même, en fait, juste sur un date, en fait.
Ouais.
Et qui va être, et du côté, là, si on parle d'hétérosexualité de l'homme, qui va en effet avoir des sortes de préconcepts déjà en tête, mais aussi du côté de la femme noire qui va être dans une inquiétude, une méfiance, parce que bah, pourquoi elle a été choisie, en fait. Et ça, tu mets vraiment le point là-dessus en se disant, mais ce n'est jamais anodin, en fait, quand une femme noire a été choisie. Et donc, il faut toujours voir, est-ce qu'on est là pour juste du sexe et une partie un peu... enfin, j'allais dire folklore, mais on va rester... Enfin,
pratiquement, ouais.
Enfin, voilà, le truc dans toute une image ouais. comme ça que l'homme se serait construit. Ou est-ce que c'est sincère, ou en même temps, ça va rentrer encore sur d'autres...
Sur d'autres problématiques derrière, ouais. ouais.
C'est... Enfin, il y a quelque chose, en fait, de la... Oui, c'est ça, de la surconscience, en fait, de devoir toujours faire attention à où on met les pieds, enfin, et comment on choisit, etc. Donc, qui ne permet pas, quand même, ce qu'on imaginerait être quand même de la détente. Il y a aussi, tu en parlais un petit peu avant... quelque chose d'assez fort, ce qui va être les représentations dans la pop culture. Mmh. C'est vrai que on parle beaucoup, et notamment on avait reçu Jennifer Padjemi pour Féminisme et pop culture, et on parle beaucoup en fait des séries, des films, et de comment en fait c'est vraiment une continuité de comment les sociétés se construisent. Et donc quand on y réfléchit, et ben c'est vrai qu'il y a pas de modèle en fait. Il y a très peu de modèles. Je dis peu parce que là, récemment, il y a quand même eu des choses qui ont un tout petit peu évolué à
ouais.
ce sujet.
Ouais, quand même.
Mais si on regarde dans tous nos classiques, en fait, les femmes noires, vous construisez autour d'histoires de blanches.
Ouais.
Et tu prends dans ton livre l'exemple de LOL,
ouais.
Le film, donc cette ado, ses premières histoires d'amour à Paris. Cet endroit-là de réflexion est hyper intéressant, de se dire que sans accompagnement... En fait, de la pop culture, on ne se représente pas, tout simplement.
Comme le blanc est censé représenter l'universel, bah nous, on est un peu forcé de se sentir représenté via ça, en fait. Sauf qu'il y a toujours quelque chose qui manque, c'est qu'on ne se voit pas. Et autant à l'époque de LOL, par exemple, j'étais pas, j'avais 13-14 ans, donc je n'étais pas du tout alerte, mais... En fait, j'avais moi j'adore ce film. Hein. J'adore ce film. C'est un film confort, voilà. Mais la première fois que je l'ai vu, et même pendant plusieurs années après, en le regardant, à la fin, je me sentais très mal. En fait, je me sentais très très mal parce que c'était pas ma vie. Parce que c'était pas ma vie. Parce que le personnage de Lola et même toutes ses autres copines, elles sont toutes elles ont droit aux histoires d'amour. Elles en ont pas mal, etc. Puis ça alimente leur vie d'adolescente, en fait. Enfin, elles ont, 15-16 ans. On pense beaucoup à ça, à 15-16 ans. Enfin, c'est censé être normal. Mais pour moi, ça l'était pas normal. Parce que je me souviens, j'étais dans le cinéma de Brétigny-sur-Orge, dans le 91. Et je me souviens, je me disais, mais en fait, à quelle heure, moi, ça va m'arriver, tout ça, je vois pas. Donc, c'est trop mignon et tout, c'est trop beau, je rêverais que ça m'arrive, mais ça m'arrivera jamais, en fait. Et il y a vraiment la problématique aussi de classe qui entre avec LOL, parce que ça m'arriverait jamais, mais pareil, en fait, ce sera jamais aussi romantique que dans LOL. Parce que, moi, j'ai grandi en Essonne, donc en banlieue parisienne, dans le 91, et à côté du lycée, il n'y avait pas de café comme dans LOL, enfin, il y avait un grec. Je ne me voyais pas avoir des dates au grec, ou alors au McDo de la zone industrielle, où je dois prendre le bus, je dois faire 15 minutes de bus pour y aller, quoi. Enfin, non, il fallait monter sur Paris, donc prendre un ticket à 13€, tout ça, puis trouver ensuite un café, etc. Non, en fait, tu n'as pas d'argent, donc tu ne vas pas le faire. Et du coup... vraiment, je me suis dit, en voyant ce film, il y a des gens qui ont une belle vie, mais c'est pas ma vie, et je pense que ce sera jamais la mienne, et c'est chiant. Mais du coup, comme autre représentation, j'en cherchais, mais j'en avais pas, et le peu que j'en avais, c'était toujours très très violent, en fait. En France, par exemple, il y avait le téléfilm Fatou la Malienne. Déjà, le titre, voilà. Et dans ce téléfilm, donc Fatou, elle rêve, elle vit à Barbès. Elle rêve de devenir coiffeuse professionnelle, etc. Elle a 18 ans, je crois, 18 ou 20 ans, mais sauf que en fait, sa famille décide de la marier de force. Ses parents sont complètement, impuissants. C'est sa tante, en fait, qui décide de la marier de force, et ses parents sont complètement impuissants. Honnêtement, je pense pas que ça arriverait dans ces cultures-là, mais ça, c'est un autre débat. Donc, elle se fait marier de force, et puis elle est séquestrée, elle est violée, etc. Enfin, c'est que de la violence, quoi. Que de la violence, et elle est sauvée par son amie blanche, évidemment. Puis elle se coupe de sa famille. Fatou, il y avait un grand bruit autour de Fatou. Moi, je me souviens qu'à l'école, on m'en avait parlé. En mode, c'est comme ça chez toi. Non, je suis pas malienne déjà, donc non. Et donc, plus de 10 ans plus tard, il y avait Bande de filles aussi, le film de Céline Sciamma. Et la représentation de l'amour dedans, c'est Mariam, qui est le personnage principal, qui a sa première relation sexuelle, et en fait, son frère le découvre et la frappe. Parce que en ayant sa première relation sexuelle, elle lui a fait honte dans tout le quartier. Donc voilà, c'est ça les deux représentations que j'avais quand j'étais enfant ou ado de l'amour noir en France. En tout cas, de ce qui pouvait ressembler à ça. Mais sinon, bah, du coup, je devais me tourner vers les États-Unis, en fait. Donc mon premier souvenir, c'est dans Les Feux de l'amour, figure-toi. Ouais, parce que mine de rien, Les Feux de l'amour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais il y avait plusieurs couples noirs, en fait. Et c'était dans les années 90, et il y en avait déjà beaucoup, et tout était normal. Enfin, Les Feux de l'amour, enfin, normal. Normal à la fête de l'amour, mais c'était pas violent, etc. Enfin, c'était vraiment normal. Ou sinon, bah, je me tournais vers les sitcoms, quoi. Le Prince de Bel-Air, Ma famille d'abord, etc. Toutes ces séries-là, en fait, bah, humoristiques pour la plupart du temps. Mais la femme était toujours plus claire que l'homme, voire très claire, tout court, en fait. Donc, pareil, il y avait toujours un truc qui clochait. Mais aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, ça va mieux.
Ouais, et encore, tu prends pour parler de ce principe, ou même dans un, alors je pense que c'est le Black Love dont tu parles, où, et donc c'est des couples noirs qui s'aiment et qui vont de ce fait tout faire pour en fait rendre hommage à leur communauté afro-américaine, et donc avec des valeurs, des films qui vont vraiment montrer en fait l'implication du couple dans leur culture. Et tu prends l'exemple de This Is Us, oui. Donc la série qui nous a fait pleurer toutes les larmes de notre corps, ou qui risque de le faire si vous ne l'avez pas encore vu, et avec ce couple emblématique. Et c'est là où en fait tu nous dis, bah oui, mais en fait c'est encore le principe de la femme qui est plus claire. Et donc comme si en fait la femme noire, pour être acceptable, devait le plus se rapprocher d'une femme blanche pour être dans sa féminité, en fait. Et ça, This Is Us, on parle de là les dernières années, on n'est pas il y a 20 ans, en fait. Hein.
C'est vrai, et pourtant, cette série, au niveau problématique de race, elle est vraiment incroyable. Enfin, c'est une série incroyable de base, mais franchement, très peu de séries dramatiques, grand public surtout, ont réussi à faire ce qu'elle a fait en matière de traitement de la race, etc. Mais il y a toujours cet écueil-là, ouais. Il y a quand même toujours cet écueil-là, et c'est dommage, en fait, parce que c'est comme si déjà la femme noire foncée ne pouvait pas exister en tant qu'être désiré, mais surtout, bah, le personnage de Randall, il est foncé, c'est comme si les deux personnes noires ne pouvaient pas être foncées, vraiment foncées. Donc c'est vraiment dommage, en fait. Ouais.
Après, ça vient aussi... rejoindre, en fait, une problématique du métissage aussi, d'aller de se dire en fait que en créant en fait des personnes qui deviennent plus claires de peau, aller contre le racisme, tu vois, bon, c'est peut-être un peu étiré, mais en fait là où je veux en venir, c'est de dire que comme tu le disais, c'est comme si on pouvait pas accepter qu'il y ait des personnes noires de peau foncées, qu'il y en ait plusieurs, c'est de montrer en fait qu'il y a une sorte de passation vers les personnes blanches, ou en tout cas, et que ces couples mixtes d'une certaine manière, venait en fait après répondre à la problématique du racisme. En tout cas, c'était présenté comme ça en France, notamment. Enfin, ça a été quand même assez passé comme ça. Et est-ce que tu penses que ce serait une façon inconsciente, en fait, que de parler de métissage à l'écran ? Je sais pas, hein, là, je suis pas en freestyle, mais...
Moi, je dirais que dans ces séries, c'est plus du colorisme, en fait. Mais c'est vrai que c'est une bonne réflexion.
Mais je sais pas, parce qu'en fait, c'est un endroit que tu pointes, en fait, de dire la fameuse question des couples mixtes en France, c'est quand même un truc assez... qui a été mis hyper en avant comme réponse au racisme, etc. Mais qui, en fait, quand on y regarde vraiment, c'est une façon, en effet, d'éclaircir les peaux, etc.
Ouais, puis je sais pas, en fait, comme on est dans une société qui nous pousse pas forcément à nous aimer, nous en tant que personnes noires, peut-être que les gens trouveraient ça aussi bizarre que deux personnes noires s'aiment entre elles. Surtout en France, où il y a quand même un rapport qui est assez compliqué entre hommes et femmes noires, pour le coup. Donc forcément, le métissage, c'est une sorte de... comment dire ? C'est une sorte d'utopie, en fait. De se dire que par le métissage, on va éradiquer le racisme. Mmh. On va faire des enfants métis. Donc, c'est ça l'avenir. C'est vraiment... Il n'y a plus de couleurs, quoi. On ne voit pas les couleurs, il n'y en a pas, etc. Alors que, en fait... Être en couple avec une personne blanche, c'est aussi s'exposer à des violences racistes, en fait. Parce que déjà, c'est pas parce que ton... Enfin, moi, en tant que femme noire, c'est pas parce que mon mec est blanc qu'il sera forcément pas raciste. Genre, ça existe. Mm-hmm. Ça existe bel et bien. Et puis, si mon mec est pas raciste, bah, qu'en est-il de sa famille, en fait ? Qu'en est-il de ses amis ? Est-ce que lui-même, il aura conscience, si on veut des enfants, que ses enfants ne seront pas blancs ? Est-ce qu'il va le prendre en compte dans l'éducation, etc., etc., etc. Enfin, ça ouvre tout un champ, en fait, d'autres questionnements. Et du coup, ça me fait penser que, ouais, on ne peut jamais être détendu, quoi.
Tu disais que même, en fait, dans les couples noirs, l'homme avait une position d'oppresseur face à la femme noire. Et donc ça, typiquement, en fait, il y a un terme... c'est la misogynie noire. Est-ce que tu peux développer mm-hmm. autour de ça ? Parce que quand tu dis on n'est jamais détendu, c'est que vraiment, même dans un couple entre personnes noires, il y a quand même toujours cette vigilance extrême. Quoi.
Après, la misogynie noire, elle est vraiment présente partout, pas que des hommes noirs, mais c'est vrai qu'il y a quand même un contexte assez français où la misogynie noire est très présente chez les hommes noirs. Très, très présente. Le fait de, comme les autres, ne pas du tout nous considérer comme des intérêts amoureux, donc on est forcément leur sœur, ou alors dire qu'ils nous toucheraient même pas avec un bâton, quoi. Enfin, qu'on n'est pas du tout désirable, qu'on ne vaut même pas le coup d'être désirable et qu'on est sale et dégueulasse, quoi. Et que eux, de toute manière, ils préfèrent les femmes blanches parce que les femmes blanches, elles ont des vrais cheveux, parce que les femmes blanches, elles parlent doucement, parce que les femmes blanches, elles sont féminines. En fait, il y a un passage dans le livre où je parle de Twitter, des réseaux sociaux, où il y avait eu un hashtag, c'était en 2015, qui s'appelait « Tout est noir sauf nos meufs ». Donc que certes, leurs vêtements étaient noirs, leur famille était noire, leurs potes étaient noirs, etc., mais que leurs meufs, absolument pas, et qu'elles ne le seront jamais parce qu'elles ressemblent à du charbon, à du pétrole et tout ce que tu veux. Et en fait, ce hashtag, il a été lancé par un homme noir. Et au départ, c'était plein d'hommes noirs qui, en fait, l'ont alimenté. Puis ensuite, ils ont été rejoints par des hommes de toute race, etc., mais ça vient d'eux quand même. Et même, moi, quand j'étais plus jeune, en fait, collège-lycée surtout, à l'époque, il y avait beaucoup de... Donc moi, j'ai grandi dans les années 2000, début 2010. Il y avait beaucoup d'insultes en notre rencontre. Fatou, Niafou aussi, c'était vraiment des termes pour dire... déjà, qui nous assimilaient forcément à des femmes issues des classes populaires, mais les classes populaires qu'on veut absolument pas approcher. Mais pour dire que on est sale, on pue, on a les faux cheveux, on crie partout dans le métro, on est dégueulasse, quoi. On n'est pas désiré, on n'est pas désirable et on n'est encore une fois pas des femmes, quoi. Et ça, très honnêtement, c'est surtout des hommes noirs qui m'ont lancé ces insultes là quand j'étais plus jeune, quoi. Et c'est pareil pour mes amis, la sécurité, elle est présente nulle part. Après, je sais qu'aujourd'hui, comme on est vraiment... comme les infos se diffusent beaucoup plus facilement, etc., il y a beaucoup plus de production à ces sujets-là, je sais qu'il y a quand même peut-être une prise de conscience aussi de leur part, aujourd'hui. Il y a un très bon podcast qui s'appelle « Sauver sa peau » d'Emily Mendy, c'est un podcast sur le colorisme, où en fait, dans le dernier épisode, elle est partie... parler à l'un des hommes qui a créé le hashtag, enfin pas qui a créé, mais qui a tweeté sur le hashtag « Tout est noir sauf nos meufs ». Et donc c'était il y a quoi, 6-7 ans, et dedans il raconte que, en fait, à l'époque, quand il voyait une femme noire, il se disait « je peux pas, parce que je vois le noir, quoi. Enfin, le noir, je la vois pas dans le noir, en fait. » Et en fait, Emily, elle lui dit « mais toi aussi, tu te rends compte que toi aussi, en fait ?» Et en fait, il se disait, oui, mais on nous apprend pas à nous aimer nous-mêmes. Donc,
ça me permet de donner leur place aussi à toutes ces penseuses donc que tu cites, mm-hmm. et qui ont pensé déjà en fait ouais. tout cet endroit-là, Audre Lorde, Bell Hooks.
Il a quand même fallu une petite propagande de la part de féministes noires en France pour que pour qu'on voit que Bell Hooks existait et pour qu'on voit que Bell Hooks aussi parlait d'amour il y a très 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 longtemps en fait. Mais du coup, ça a réussi. Ça a réussi. Donc là, il y a la traduction qui est sortie et ça se vend très très bien. Mais elle était américaine.
Oui, c'est ça.
Elle était américaine. Donc moi, j'attends qu'il y ait des Bell Hooks ici, quoi. Franchement, je l'attends parce qu'on a aussi un contexte qui est très particulier en France, quoi. Des paramètres que, par exemple, les féministes américaines n'ont pas. Dont elles n'ont pas du tout conscience, et des rapports aussi de force qu'il n'y a pas aux États-Unis que nous, on a ici. Donc, ouais, moi, j'ai... Enfin, c'est ce que je dis dans la conclusion, c'est que... Il n'y a pas de solution dans ce livre. Il n'y a pas de solution. Il est un peu fataliste, d'ailleurs, mais en fait, j'espère juste que ce sera un premier pas pour qu'il y en ait plein, plein d'autres aussi qui aient le privilège d'écrire un livre où... ou d'enregistrer un podcast, ou je sais pas quoi, mais qui puissent en parler, elles aussi, de leur place, quoi.
Dans ton livre, tu continues, en fait, à aller vers les marges, et donc tu vas aussi parler des femmes pauvres, des femmes précaires. Et là, c'est vrai que, évidemment, il y a cette idée, en fait, on n'a pas le temps, en fait. À un moment donné, quand il n'y a pas les moyens... c'est pas la priorité ouais. que d'aller dénoncer le système hétérosexuel dans son couple ouais. Quand il faut juste essayer aussi de survivre. Et c'est vrai que cette part-là, elle paraît pas anodine, en fait, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas que les privilégiés qui ont droit à la sérénité amoureuse, en fait.
Bah ouais, non mais oui, hein, mais le truc c'est que c'est, en fait, peut-être qu'on a... beaucoup oublié le côté pratique, au fait, en fait, de l'amour, et que pour certaines, juste, en fait, elles n'ont pas le temps de se poser un milliard de questions sur leur place dans leur couple, ou sur est-ce que je vais sortir de l'hétérosexualité ou pas. La priorité, c'est plutôt de savoir comment manger, comment payer son loyer, comment est-ce qu'on peut nourrir ses enfants aussi. C'est ça, la priorité. Même si, je reste persuadée qu'il y en a plein qui se posaient des questions aussi là-dessus, mais je trouve qu'on leur parle pas assez aussi à ces femmes-là, qu'on prend pas en compte le fait que y ait des paramètres qui sont en jeu, qui ne sont pas forcément en jeu pour des femmes privilégiées. Et dans les femmes privilégiées, moi, je me mets complètement dedans. Parce que je... Par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je vois souvent sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a une femme qui se plaint justement de son copain ou de son mari, je sais pas. Donc, certes, il y a des femmes qui seront là pour leur dire « Oh là là, bah, courage !» Mais il y en aura d'autres qui seront là et qui leur diront « Quitte-le !» Tout simplement. « Quitte-le !» ou alors « Deviens lesbienne !» Comme si c'était vraiment deux solutions qui étaient complètement, genre, miraculeuses. Mais non, ça implique des choses, en fait, derrière. Ça implique des choses. Quitter quelqu'un, si on vit avec cette personne, ça implique de devoir ensuite trouver un logement toute seule. Ça implique de devoir subvenir aussi à ses besoins toute seule, de plus forcément avoir des revenus en commun. Ça implique plein de choses, en fait, et on n'implique pas ça dans nos réflexions. La philo, c'est très bien, penser l'amour d'une manière très très philosophique, c'est super, mais il y en a qui ont juste pas le temps, quoi. Mmh. Juste la priorité, c'est de pouvoir, je sais pas, quitter le foyer familial, accéder à la propriété, parce que c'est beaucoup plus facile quand on est à deux d'accéder à la propriété. C'est de pouvoir aussi, c'est mieux aussi d'être pauvre à deux plutôt que d'être pauvre seul. Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est pas juste oh là là, je sais pas, aujourd'hui il m'a mal parlé, qu'est-ce que je fais. Enfin, c'est pas que ça, c'est aussi plein d'autres choses, et c'est une histoire de partenariat aussi, quoi.
Mmh. Oui, il me semble que tu t'évoques aussi la question des solidarités entre femmes, mmh. et de se dire que, en fait, typiquement, des personnes comme ça qui vont être aussi dans quelque chose de la domination émotionnelle, enfin, évidemment, il n'y a aucun jugement. En fait, on n'a pas toutes aussi la disponibilité, la possibilité en fait de réfléchir à sa situation, ou en tout cas le luxe aussi de pouvoir dire je m'en sors. Donc ça c'est ce que tu disais, et que dans des situations d'oppression du couple, ben ça demande énormément de courage et d'accompagnement pour oser s'en sortir, en fait, d'imaginer qu'on puisse en être extraite. Et cette question des solidarités, ça fait plusieurs fois qu'elle revient dans les rencontres, de se dire qu'en fait, il faut qu'à un moment donné, nos beaux discours d'émancipation, de on peut changer, on peut tout dézinguer, comme j'aime le dire, ben ouais, mais en fait, on n'a pas tous les moyens de le faire. Ouais. Et celles qui peuvent accompagner, enfin, il y a toute cette idée de créer des fonds, d'essayer en fait que... financièrement, en fait, des personnes qui n'ont pas les moyens, mais qui veulent, en fait, changer de vie, d'une certaine manière, sortir d'un système d'oppression, puissent avoir un backup aussi. Et ça permettrait peut-être, en effet, d'extraire plus de personnes dans des situations horribles, en fait. Mais je tenais absolument à ce qu'on parle de ta conclusion et de ton intro, parce que j'étais très ravie, mais vraiment très touchée de lire ce moment où tu dis, mais en fait, là, on vient de parler de choses très rationnelles. Enfin, on parle d'amour, c'est ci, c'est ça, et on parle pas de sentiments, on parle pas de ce qui nous met les papillons dans le ventre. Enfin, là, je te cite, hein, c'est vraiment de ce qui nous bouleverse, des frissons, etc. Alors que si on considérait l'amour comme une construction sociale, ben on pourrait s'atteler à la démonter autrement. Ça, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est exactement ce qu'on attend. C'est que là, on parle de sentiments, de quelque chose d'immatériel, et que jamais, en fait, pour le moment, dans tous ces livres, on en parle vraiment.
Mais le truc, c'est que si... enfin, moi, j'attends. Je n'attends que ça, mais... peut-être qu'il faudrait aussi qu'on a... enfin, comment dire ? Peut-être que personne n'arrive à bien aimer aussi. C'est peut-être ça. Peut-être que personne ne sait concrètement ce que ça veut dire de bien aimer, tout simplement. D'aimer d'une manière vraiment très pure, d'aimer aussi d'une manière égalitaire le conjoint, comme les membres de la famille, comme les amis, etc. En fait, je pense que aimer, c'est encore aussi une notion hyper floue. Et c'est peut-être que pour ça que personne n'ose mettre... le pied dedans, parce que ça veut dire quoi aimer déjà ?
Ce qui m'a vraiment plu dans ta conclusion, c'est de dire qu'en fait, il est temps qu'on y aille. C'est dur, ça fait peur et on ne sait pas où on va aller. Et même si on n'enlèvera pas les systèmes d'oppression comme ça, au moins, en fait, on aura des bases beaucoup plus saines, en fait, pour parler d'amour et de révolution amoureuse.
Ouais, non, mais c'est aussi simple. Enfin, simple. Non, mais c'est aussi simple que ça, ouais. Mais il faut y aller.
Il y a
du travail. Non, mais il y a vraiment du travail. Et puis, s'atteler aussi à ce sujet, c'est aussi se questionner sur soi-même. Et qui a envie de se questionner sur soi-même et sur ses propres comportements et sur comment est-ce qu'on a pu aimer notre famille, nos amis, nos conjoints et tout. Je sais pas qui a envie de mettre le nez dedans. Parce que ça peut faire hyper mal aussi, quoi. Donc, non, mais j'attends de voir.
Bon, bah en tout cas, on a un plan. On attend de voir, mais on a lancé une idée quand même.
On lance une piste.
On lance un truc. Merci beaucoup, Christelle.
Bah, merci.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Christelle Murula, à l'occasion de la parution de son ouvrage « Amour silencier, repenser la révolution romantique depuis les marges » aux éditions Daronne. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.